Chut.
Quel est ce cri sous nos pas?
Si j'étais une espèce, je serais
fourmi. J'aime bien organiser, planifier, préparer l'avenir et faire des stocks. Donc plutôt fourmi que cigale en tout cas.
Derrière le cri de la fourmi se cache la voix de Nicolas Puylandre.
Si j'étais un naturaliste du 21e siècle,
j'étais un naturaliste, je serais.
J'ai une passion pour le rangement.
Nicolas Puylandre.
Donc j'aime beaucoup comprendre les relations de parenté entre les organismes, de façon à essayer de comprendre comment ces organismes sont organisés. Qui est plus proche de qui? Quels sont les groupes qui forment un ensemble homogène et qui ont donc évolué à partir d'un ancêtre commun que l'on peut retracer dans le passé. Donc voilà, j'aime bien partir d'un espèce de chaos. Moi, j'ai commencé à travailler sur mon groupe où on n'avait aucune idée de la classification. C'était un peu ce qu'on appelle un groupe poubelle, c'est un groupe fourre-tout, c'est-à-dire qu'on mettait là-dedans les choses qu'on ne savait pas où mettre. Et justement, avec les approches moléculaires, on a mis de l'ordre dans tout ça. On a séparé tout ça en familles, on a décrit les familles. Et une fois qu'on a fait ce travail-là, on peut commencer à répondre à des questions sur l'évolution de ce groupe-là. Donc j'avoue que ça, c'est ce que je préfère dans mon métier.
Le nouveau monde, sur les pistes du vivant. Portrait grandeur nature de naturaliste du 21e siècle. Ce souffle, c'est celui des grandes découvertes et des expéditions scientifiques du 18e siècle à aujourd'hui. Depuis près de 250 ans, naturalistes et systématiciens parcourent le monde à la découverte de sa faune et de sa flore. Si les séquenceurs de génome ont remplacé les planches et les fusains, la diversité du vivant ne cesse de nous étonner. Les chiffres donnent le vertige. Pour 2 millions d'espèces déjà décrites par la science, on estime encore de 8 à 30 millions le nombre d'espèces toujours inconnues. Alors, qu'est-ce que l'histoire naturelle aujourd'hui? Comment exerce-t-on le métier de naturaliste? Quelle émotion ressent-on lorsqu'on découvre une nouvelle espèce? Pour y répondre, vite, embarquons. Avec notre curiosité comme boussole, mettons le cap sur l'aventure et allons explorer de nouveaux mondes. Première escale, la passion du rangement.
Comme moi, je ne suis pas vraiment un aventurier, je suis assez casanier, on va dire. Je me vois plutôt comme un détective, voilà, quelqu'un qui va être dans son laboratoire pour essayer de trouver des indices. Je travaille avec des gens qui sont plus aventuriers, qui vont vraiment apprécier plutôt le côté terrain. Et en fait, tout ça, c'est un continuum. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont plutôt à l'aise avec le terrain, avec les premières étapes du processus, d'autres qui vont plutôt être à l'aise avec les approches en laboratoire. C'est plutôt un ensemble, cette idée de découvrir la nature et d'essayer de comprendre comment elle est organisée. C'est plutôt ça qui m'a animé depuis que je suis à peu près tout petit, quoi.
Position. Jardin des plantes. Muséum national d'histoire naturelle. Jardin du roi. Intendance. Georges Louis Leclerc. Note. De Buffon.
Latitude.
2 degrés est.
Longitude.
48 degrés nord. Découvrir la nature et comprendre comment elle est organisée. Dans ce premier épisode, c'est en compagnie de Nicolas Puylandre que nous partons sur les pistes du vivant. Systématicien, passionné de rangement et de biologie moléculaire, il est spécialiste des cônes, ces magnifiques petits coquillages prédateurs qui ont la particularité de faire partie des espèces les plus venimeuses du monde vivant. Alors, larguons les amarres, plongeons à 50 mètres de profondeur et laissons-le se présenter.
Alors, moi je suis effectivement dans la continuité de ce qui se faisait déjà il y a plusieurs siècles ici au muséum, c'est-à-dire qu'on continue de décrire la biodiversité. Donc décrire la biodiversité, ça veut dire effectivement aller sur le terrain pour trouver des nouvelles espèces, décrire ces espèces et essayer de comprendre comment elles ont évolué, comment elles interagissent avec leur environnement. Donc c'est un peu ça notre métier. On est avant tout taxonomiste, c'est-à-dire des gens qui s'intéressent à la description de la biodiversité, mais aussi des évolutionnistes, dans le sens où on essaye également de comprendre comment ces espèces ont évolué, comme je disais, comment elles interagissent avec leur écosystème. Donc dans le labo dans lequel je travaille, dans l'équipe de recherche dans laquelle je suis, en fait, on travaille sur ce qu'on appelle le benthos, c'est-à-dire les organismes qui vivent sur le fond des mers. Donc ça inclut les mollusques, sur lesquels je travaille moi personnellement, mais ça inclut aussi les crustacés. Ça inclut également les annélides, les vers donc, les coraux, les éponges. On a aussi un groupe qui travaille sur les algues. Donc voilà, on travaille sur toute cette diversité marine qui est posée sur le fond des mers. Et notre travail, c'est donc à la fois de décrire la diversité de ces organismes, identifier les spécimens que l'on collecte, décrire les nouvelles espèces que l'on collecte pour essayer de comprendre un petit peu la diversité de ces organismes. Et la deuxième étape qui arrive derrière, c'est aussi, comme je le disais, d'essayer de comprendre comment cette diversité s'est mise en place, comment elle a évolué au cours du temps, comment ces groupes ont pu se diversifier et occuper les différents habitats qui sont à leur disponibilité dans les écosystèmes. Et voilà, essayer de comprendre les relations entre ces différentes espèces à l'échelle de l'habitat, à l'échelle de l'ensemble de l'écosystème, pour essayer de comprendre un petit peu comment se structure et comment fonctionne cette diversité marine.
Et il me semble que votre famille d'adoption, ce sont les cônes.
Alors c'est un groupe sur lequel je travaille, ce sont effectivement les cônes, famille des conidés. Ce sont des gastéropodes marins, prédateurs. Et en fait, ils ont la particularité d'avoir un appareil venimeux. Ils sont souvent cités dans le top 10 des espèces les plus dangereuses au monde, en particulier une espèce qui est mortelle pour l'homme. Et donc c'est un groupe avec une extraordinaire diversité de formes, de couleurs. Il y a énormément de gens qui collectionnent ces coquillages dans le monde. Et c'est un groupe voilà, fascinant pour plein de raisons, pour cette capacité à produire des venins, pour la diversité des formes et des couleurs, pour la diversité des espèces. Il y a quasiment 1000 espèces décrites actuellement, et on en a encore pas mal à découvrir. Donc voilà, c'est effectivement le groupe principal sur lequel je travaille, mais en fait mon travail s'étend aussi à d'autres groupes de mollusques marins, notamment un groupe qu'on appelle les néogastéropodes, qui regroupe une grande partie des gastéropodes prédateurs marins. Là-dedans il y a les cônes, mais il y a aussi plein d'autres groupes qui ont développé des stratégies de capture de proies tout à fait originales et extraordinaires. Voilà, il y a les cônes qui donc paralysent leurs proies avec leur venin. Il y a des petits gastéropodes qui vont sucer le sang de leur proie, donc ils ont produit des anticoagulants. Il y en a qui vont asphyxier leur proie dans leurs pieds, donc ils vont produire aussi des anesthésiants. Enfin voilà, tout un tas de stratégies de capture absolument, absolument incroyables.
Ouais, on pourra refaire des dents de la mer avec les cônes cette fois-ci, ouais, changer les requins contre les cônes. Exactement. J'ai l'impression qu'ils ont l'air plus féroces encore.
Je ne dis pas qu'il y a plus de morts par les cônes que par les requins, mais pas loin peut-être.
Ce que nous avons à affronter, c'est une machine à dévorer. L'engin parfait.
Tu as entendu ce qu'on t'a dit ? Sors de l'eau tout de suite !
Nous, on se situe dans notre équipe vraiment au début de la chaîne. C'est-à-dire qu'on va sur le terrain, on collecte, on décrit les espèces, on décrit leurs relations de parenté. Et éventuellement, effectivement, on va aussi regarder la diversité des toxines qu'ils peuvent produire, parce que ça, ça peut nous aider à comprendre comment ces espèces ont évolué. Si je suis capable de produire des nouvelles toxines, je veux être capable de m'attaquer à une nouvelle proie, et donc potentiellement, je vais commencer à diverger des autres organismes qui ne peuvent pas produire cette nouvelle toxine, et il va y avoir des nouvelles espèces qui vont apparaître. Donc effectivement, quand on travaille sur les toxines, c'est pour essayer de comprendre comment ces toxines ont évolué, et comment la diversification de ces toxines a pu impacter, influencer la diversification des espèces. Pour les autres étapes, c'est-à-dire éventuellement essayer de déterminer quelles sont les fonctions précises de ces toxines, sur quelles cibles moléculaires elles peuvent agir, éventuellement si elles peuvent agir sur des cibles moléculaires humaines, auquel cas est-ce qu'elles peuvent également intervenir dans des cascades moléculaires qui sont impliquées dans certaines maladies, et éventuellement voir si on ne peut pas produire des médicaments à partir de ces toxines. Tout ça, ce n'est pas fait chez nous. Là, on passe la main à d'autres laboratoires qui vont se focaliser effectivement plus sur la partie fonctionnelle et la partie développement thérapeutique, s'il y en a.
Et alors, en fait, vous avez la particularité de vous appuyer sur la génétique ?
Tout à fait. Alors, c'est quelque chose d'assez nouveau à l'échelle des plusieurs siècles dont on est en train de parler de taxonomie et de l'histoire du muséum. Donc, c'est depuis quelques décennies, on utilise effectivement l'outil moléculaire. Donc, globalement, ça consiste à séquencer des fragments d'ADN, ou en tout cas d'accéder à l'information moléculaire contenue dans l'ADN, permettre d'avoir effectivement une vision très globale de l'ensemble de la diversité moléculaire d'un organisme. Et ça, effectivement, quand on s'intéresse à ce genre de questions, dans mon cas en particulier, la diversité des toxines, par exemple, c'est extrêmement intéressant d'avoir ce type de données omiques.
Et en quoi les missions d'un naturaliste du XXIe siècle, tel que vous, Nicolas Pulandre, peuvent-elles rejoindre celles d'un naturaliste du XVIIIe siècle comme Buffon ?
Fondamentalement, Même si, bien évidemment, les concepts, les méthodes ont évolué, comme on en a parlé, fondamentalement, on continue de faire la même chose. On continue d'aller sur le terrain, on continue d'y aller pour découvrir des nouvelles choses. On continue d'aller dans des endroits où, je ne vais pas dire personne n'est allé, mais en tout cas où on n'a jamais réalisé une étude exhaustive de la diversité.
Pour vous, c'est le cas. Enfin, c'est-à-dire qu'il y avait quand même un enjeu à l'époque du 18e, c'était de cartographier avant toute chose, enfin, et de faire l'inventaire aussi de la faune et de la flore, mais avant tout de cartographier. Mais pour vous, qui vous occupez des fonds marins, enfin, il reste encore pas mal de chemin à ce niveau-là.
Bien sûr, oui, les cartes sous-marines sont encore très préliminaires. À chaque fois qu'on fait une mission où nous, notre objectif, c'est de collecter de la diversité, en fait, on est en même temps en train de cartographier les fonds, parce qu'on n'a parfois aucune idée de la profondeur exacte du type de fond. Donc oui, on a toujours cette idée d'aller dans des zones où personne n'a jamais collecté, où potentiellement personne n'est jamais allé, tout simplement. Donc on est sûr de découvrir des nouvelles choses. Quand on a organisé les premières missions de ce type-là en Nouvelle-Calédonie dans les années 80-90, la moitié des espèces de mollusques et de crustacés qu'on remontait à la surface étaient nouvelles pour la science. C'est-à-dire que personne ne les avait jamais décrites. Et chaque année, on décrit des dizaines, voire des centaines d'espèces nouvelles à partir du matériel qu'on collecte dans le cadre des expéditions du Muséum de Paris. Donc il y a effectivement toujours cet esprit d'aventure, certainement. Les conditions en mission sont assez particulières, assez rudimentaires parfois, et on est vraiment dans cet esprit-là de découverte. Et même si on peut avoir l'impression qu'on est allé partout et qu'on connaît tout, c'est très 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 loin d'être le cas. En plus de ça, dans nos missions, on choisit bien évidemment des zones où on va, enfin des zones qui sont proportionnellement moins connues que les autres et avec une diversité plus importante que les autres. Quand on va en Nouvelle-Calédonie, quand on va aux Philippines, quand on va en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on sait très bien que c'est des zones extrêmement riches et proportionnellement relativement très mal connues. Et donc on a toujours cette certitude quasiment d'y aller et de faire des découvertes.
Alors, prêt pour l'inconnu ? Et si nous allions explorer les fonds marins ? À suivre, le nouveau monde, sur les pistes du vivant, en compagnie du systématicien Nicolas Pilandre. Prochaine escale, bavard comme une carpe. Le Nouveau Monde est un podcast original du musée Buffon en partenariat avec le Muséum National d'Histoire Naturelle. Il a été réalisé par Marie Casanova.